Salut, c'est Paola, directrice de l'information à Choc, la web radio de l'UQAM. En ce moment, je recherche des reporters bénévoles. Donc, si t'es attiré par le journalisme de terrain, n'hésite pas, rejoins nos équipes. Et pas besoin d'avoir de l'expérience, on te forme gratuitement à la prise de son, au montage et à la réalisation de reportages. La seule chose à faire pour ça, c'est de remplir notre formulaire « Créer des reportages » sur le site choc.ca dans la section « S'impliquer ». À très vite!
Ici Vanille, et vous écoutez la Radio Choc.
Bonne année, bienvenue à cette toute première émission de 2024 des Amazones! Et oui, épisode 235, déjà, I know, right? Je t'ai juste vu les lèvres bouger et dire, oh my god, 235!
Bonjour!
Allô, c'est capoté, hein?
Je vais commencer par dire bonjour.
Ben, tu peux commencer par dire bonjour.
Parce que voilà, dans les 235 épisodes, à date, j'en ai fait un.
Oui? C'est ta deuxième?
C'est ma deuxième.
Oui, j'allais te présenter parce que vous reconnaissez peut-être la voix de Estelle Grignon qui était venue nous parler d'Animal Crossing il n'y a pas si longtemps. On était retourné sur ce phénomène-là qui avait marqué notre début de pandémie. Puis on s'était dit, bon, ben trois ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'en ai parlé un peu. Je l'ai retéléchargé. J'ai recommencé à jouer. Puis il a fallu une seule... Puis j'en ai parlé, je pense, aussi en ondes, mais il a fallu une seule... genre période de trois jours où j'ai dû aller à un congrès à Sherbrooke où j'ai pas pu avancer mes projets puis j'ai pas pu checker... genre la courbe de mes navets, puis là, j'ai pas réouvert le jeu. Mais j'ai tout téléchargé, j'ai tout réessayé, ça a été quand même bien investi comme temps. Mais Disney Dreamlight est arrivé en même temps, plus tard, et Baldur's Gate 3, et là, je te donne plein de jeux vidéo.
Oui, mais je sais pas, moi, j'ai jamais embarqué vraiment dans les navets, dans Animal Crossing, plus que ça, parce que je suis comme, j'ai tellement d'argent dans le jeu...
Mais moi,
je suis constamment en train d'aller reporter. T'sais, j'ai fini de payer ma maison, j'ai pas mal tous les meubles que j'ai de besoin.
Mais c'est que j'ai rebâti une île au complet.
Ah.
J'ai décidé de recommencer. J'ai trouvé que c'était trop anxiogène de plus catcher les commandes. Et je me suis dit peut-être que le plus simple, c'est de recommencer. Donc j'ai recommencé. Et je trouvais que c'était peut-être une façon de tester un peu, retester un peu toutes les mécaniques. Mais tu sais, on s'entend. C'est ça.
Mais... peut-être dit au revoir à tous tes villageois pour de bon, là.
Ouais. Je me suis dit, hey, c'est bizarre parce qu'il y en a qui sont revenus. En fait, j'ai recommencé avec les presque deux mêmes, je crois. Donc, c'était quand même excessivement fascinant. Mais je pense que j'avais même choisi le même fruit. Mais j'ai pas choisi la même sorte d'île, par exemple. Je me suis dit, on va changer quelque chose. Bref. Estelle, on parle d'un sujet vraiment fascinant aujourd'hui. Puis je voulais qu'en fait, tu as proposé ce sujet-là, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'on avait fait un épisode à Pop en Stock, donc une autre émission mythique de Choc, où est-ce qu'on avait parlé du geek. C'est quoi être geek? C'est quoi le rapport au geek? Puis dans le fond, la définition d'être geek, c'est juste d'être plongé et de connaître sur le bout des doigts un sujet. Et toi, Estelle, c'est le sport.
Entre autres.
Ben, le hockey.
Je veux dire, je suis directrice musicale de Choc.ca. J'écoute de la musique tous les jours. Je connais toutes les musiques tout le temps, constamment.
T'as-tu étudié en com?
J'ai fait mon bac en journalisme.
Ben, c'est pour ça. Fait que là, c'est bien que tu refasses ton curriculum vitae que j'ai pas eu le temps de faire.
C'est ça, je suis en train de dire. Hey, ben, je suis directrice musicale à Choc. Il y a une heure, j'étais en train d'animer une émission avec Zia Kala, Enseignement de la fièvre. Pour l'émission Le Studio, on fait des sessions live. Les mercredis, j'anime le palmarès. J'ai écrit dans Urbania, j'ai écrit dans Sortu, j'ai écrit pour Cube Musique, j'ai écrit pour RDS Jeux vidéo une fois où je parlais des chansons dans les jeux d'NHL. J'ai écrit Elle Québec, Elle Canada, Fashion Magazine. J'ai fait de la télé pour Nous sommes la ville à feu, ma TV. Là, j'ai écrit dans Cobuzz, puis je vais sûrement avoir d'autres articles qui vont sortir bientôt pour eux autres. J'ai écrit dans les libraires. Je les ai toutes faites, tu sais. Mais c'est la musique qui est la principale chose dans ma vie. Cela dit, on n'est pas ici aujourd'hui pour geeker de musique parce que j'ai cette autre side quest dans laquelle je suis constamment. Puis que c'est difficile parce que comme je suis beaucoup dans le milieu de la musique, quasiment tous mes amis sont dans le monde de la musique, soit sont des artistes, des gens qui gravitent autour, des musiciennes, musiciens qui accompagnent des projets, des gens dans des labels, etc. Puis il y a quasiment personne là-dedans qui écoute le hockey.
Mm-hmm.
Et je me retrouve bien seul des fois à écouter des matchs de hockey tout seul dans mon lit.
Est-ce que tu me permets une question un peu people?
Vas-y.
Comment est venu pour toi cet amour du hockey? Est-ce que tu l'as hérité de quelqu'un? Ou est-ce
peut-être.
Que
tu... Moi, je viens d'une famille de 5 enfants.
Mm.
Puis les 4 autres en ont rien à chier du hockey.
Est-ce que ça aurait pu faire une belle équipe, là? On s'entend. Une belle... Je connais pas les termes, hein, c'est ça. C'est ce genre d'épisode que j'adore où est-ce que, dans le fond, je ne serai que, dans le fond, en train de me faire raconter des choses qui... Et quand c'est fait avec passion, c'est toujours très intéressant. Mais c'est ça, il y a souvent 3 attaquants, 2 défenseurs.
Voilà.
C'est ça que je pensais à 5.
Voilà, voilà. Des fois, on parle de l'attaque à 5.
Mm.
Ça, c'est quand une équipe a une pénalité.
OK.
Puis là, ben, quand tu as une pénalité au hockey, généralement, tu as un joueur de moins sur la glace.
Ouais.
Ça, on appelle ça une infériorité numérique. Mais ça veut dire que l'autre équipe, elle, est en supériorité numérique. Puis c'est ça qu'on appelle l'attaque à 5. C'est que là, ce sont 5 joueurs qui ont tous un peu un rôle d'attaquant. Parce que comme il manque un joueur de l'autre côté... Tu te concentres vraiment juste sur l'attaque. Pendant cette période-là, pendant le 2 minutes, par exemple, la pénalité, des fois, ça peut être plus long, mais mettons, pendant 2 minutes, t'as ces 5 joueurs-là que leur rôle, c'est de marquer un but. T'sais, ils sont tous en train de gérer ça. T'es pas supposé, idéalement, te faire scorer quand c'est ton attaque à 5. Puis là, souvent, il y a des équipes de plus en plus qu'on voit qui, au lieu d'avoir 3 attaquants, 2 défenseurs, vont jouer avec peut-être 4 attaquants puis juste un défenseur qui est là pour faire des lancers frappés. Mais voilà, c'est ça, une attaque à 5, c'est comme...
Avant d'être une émission de sport, c'était un terme de hockey.
C'était un terme de hockey à la base, d'où le nom... C'est pour ça que c'était une émission de sport, c'est de là que ça vient le nom.
Ben, fascinant. Puis aujourd'hui, on va quand même parler d'une... C'est drôle parce qu'on parle de nom et on va parler de quelque chose qui a un nom, mais qui est formé d'une multitude de choses qu'il n'y en a pas. Et j'ai hâte que tu me racontes un peu l'historique de pourquoi est-ce qu'on a parti cette ligue avec si peu de noms d'équipe. Mais en fait, aujourd'hui, c'est drôle parce que tu m'as rappelé en fait que... On va parler aujourd'hui de la PWHL, donc la Professional Women Hockey League, qui est toute nouvelle, c'est frais, ça sort des presses et tout ça, mais rappelle-moi la date de fondation de la PWHL.
C'est complexe.
C'est complexe.
Parce qu'à la base, l'affaire, c'est que le hockey féminin, ça a été vraiment compliqué comme sport à mettre en place. Il y a déjà eu des ligues ici au Canada. Il y avait la Ligue canadienne de hockey féminin dans laquelle il y avait une équipe à Montréal qui s'appelait les Stars et éventuellement les Canadiennes de Montréal. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là. Des équipes à Toronto, équipes à Calgary. Même vers la fin, là, il y avait comme une équipe en Chine aussi parce que la Chine, étonnamment, au hockey féminin, n'est pas médiocre comme... l'équipe masculine. Quand il y a eu les derniers Olympiques, par exemple, pour avoir une équipe de hockey féminin, c'est parce que quand il y a les Olympiques, il y a toujours une équipe du pays où ça se passe.
Mm-hmm.
Puis là, les Olympiques avaient lieu en Chine. Puis pour le hockey féminin, c'était pas un problème parce qu'il y avait déjà une équipe de hockey. Mais pour le hockey masculin, c'était vraiment, vraiment le problème parce que la Chine, ça fonctionne pas tant au hockey masculin. Assez que c'est tout quasiment des joueurs en grande partie qui sont canadiens, qui sont partis jouer en Chine parce qu'ils n'étaient pas capables de faire la Ligue nationale, par exemple, ou pour différentes raisons, qui jouaient dans des ligues semi-professionnelles là-bas, qui ont eu assez facilement leur citoyenneté chinoise pour pouvoir faire partie de l'équipe. T'sais.
Évidemment.
Mais voilà, donc il y avait cette ligue-là qui a fermé ses portes en 2019, si je ne me trompe pas. En même temps, il y avait une ligue aux États-Unis qui était à l'époque la National Women's Hockey League qui va éventuellement changer de nom pour devenir la Premier Hockey Federation, entre autres parce que, ben, ça dit jamais le mot masculin dans des ligues de masculines.
Mm-hmm,
c'est pas la Ligue nationale de hockey masculin, c'est la Ligue nationale de hockey. Fait que pourquoi est-ce qu'une ligue de hockey féminin, on devrait dire féminin, tu sais?
Ben, parce que c'est le rapport à l'autre. Tu sais, parce que c'est, il y a le normal et il y a l'autre.
Ben,
je le dis de façon un peu brusque, peut-être, mais c'est toujours.
T'as le
ça.
Hockey de filles, puis t'as le hockey normal.
C'est t'sais. Ça, tu sais.
Ben, voilà. Mais
t'as
en
des
même push-ups temps...
normales, puis des push-ups de filles. Tu sais, il y a quelque chose quand même, tu sais, on c'est sûr que, dans le fond, il y a quand même le rapport au sport féminin, je pense, je veux dire, depuis. Pierre de Coubertin, il y a quand même... Et avant ça, mais je veux dire, comme il y a quand même quelque chose aussi dans notre sport de compétition, il y a quelque chose quand même de profondément sexiste, là, puis de profondément... pas nécessairement classiste, là, je pourrais pas comme aller jusque-là, mettons, j'ai pas assez de connaissances, mais I guess que oui, là, je veux dire, comme surtout pour des sports... Parce que le hockey féminin a une très, très grande réputation aux Olympiques, mais ça reste que c'est amateur, donc c'est pas du tout financé de la même façon qu'une ligue professionnelle.
Mais là, justement...
Et là, justement.
Voilà. La Premier Hockey Federation avait un plafond salarial, puis chaque année, le plafond salarial doublait.
OK.
Mais pendant ce temps-là, les filles qui étaient dans la grosse ligue canadienne,
ouais,
où c'était des joueuses canadiennes, mais aussi américaines qui étaient là, c'était surtout les meilleures, ils trouvaient que les conditions n'étaient pas assez bonnes.
Mm-hmm.
Fait qu'ils ont décidé de se partir une association de joueuses où ils faisaient des tournois un peu à gauche à droite pour ramasser de l'argent puis pour pouvoir jouer à un moment donné quand ils sont pas en train de faire les Olympiques. Parce que les Olympiques, à un moment donné, ben, c'est juste une fois aux quatre ans. Et là, éventuellement, arrive juin dernier, nouvelle qui éclate, mon Dieu, personne n'avait vu venir, où la ligue de joueuses, l'association de joueuses, avec l'aide de certaines personnes, dont Billie Jean King, qui, elle est une joueuse de tennis, une ancienne joueuse de tennis, qui est super importante dans l'histoire non seulement du tennis, mais aussi du sport féminin en général. C'est beaucoup elle qui a poussé pour que, entre autres, le tennis féminin aujourd'hui, c'est le seul sport à peu près où les filles font un salaire comparable à celui des hommes.
Mais c'est de elle, c'est elle qui est la protagoniste de tout ce qu'on a appelé la bataille des sexes, là, lorsqu'il y a eu le combat. J'ai oublié le nom de son partenaire, mais voilà. Donc, elle a battu un homme
Un match.
Dans un match, merci.
Dans un match de tennis. Fait qu'elle, il y a aussi, je pense, c'est comme le propriétaire des Dodgers. On a affaire de même, c'est un gars de baseball, mais comme que énormément d'argent.
Mm-hmm.
Ils sont mis ensemble, ils ont racheté la Premier Hockey Federation.
OK.
Ça, c'est la ligue dans laquelle la Premier Hockey Federation, c'est des équipes américaines, mais éventuellement, il y a eu des équipes canadiennes, dont la Force de Montréal, qui est arrivée l'année dernière, qui a disputé une seule saison. Ça se fait racheter en juin. Et là, on a décidé de tout recommencer à zéro. Fait qu'autant en rachetant la ligue, t'sais, on possède toutes les marques de commerce, mettons, tous les droits, toutes ces choses-là, mais on a décidé qu'on repartait de zéro. Et c'est ce qui fait en sorte qu'en ce moment, la Ligue, comme l'avait indiqué quelqu'un qui travaille pour l'équipe de New York, c'est comme si on assemblait un avion en plein vol.
Exact, ouais.
Les femmes tenaient absolument à ce qu'il y ait une saison cette année, ce qu'on n'attende pas l'année prochaine, parce qu'à un moment donné, il y en a que ça fait un bout qui n'ont pas joué du vrai de vrai hockey. Les conditions ont été améliorées aussi. Puis on s'entend, c'est rien de comparable avec le hockey masculin, mais on parle de joueuses qui gagnent peut-être 50, 80 000. C'est assez pour dire qu'ils étaient capables de mettre quand même du beurre sur tes toasts.
C'est ça, tu sais, on est loin, mettons, des salaires, justement, des ligues masculines, où est-ce que, dans le fond, il y a comme, tu sais, toute cette idée-là de se bâtir un héritage aussi, tu sais, du fait de pouvoir survivre aisément à la fin de ta carrière de hockey. Là, c'est un peu l'idée souvent, oui. C'est souvent l'excuse qu'on entend sur les très, très hauts salaires. Oui, mais les carrières ne seront pas très longues, et puisqu'elles ne seront pas très longues, on bâtit une espèce de coussin qui fait que comme le peu de temps que tu auras travaillé dans la ligue de hockey, ça pourrait quasiment te permettre une pérennité. Oui. Alors que là, on parle vraiment plus d'un salaire alimentaire qui permet qui est très bien, mais tu sais, j'imagine la plupart doivent encore avoir un job sur le side là, quand même.
Tu sais, on va se le dire, au hockey masculin, ouais, pendant très très longtemps, les propriétaires se mettaient tout leur argent des poches. Si tu regardes des légendes du Canadien de Montréal, t'en as plein que, ben, l'été, ils livraient de la bière pour Molson, tu sais.
Mm-hmm.
Genre des Maurice Richard, des Jacques Plante, tu sais, les gros noms, là, tu sais.
Mm-hmm.
Ben, même eux autres, fallait qu'ils aient des jobs sur le side parce qu'ils faisaient pas assez d'argent. Alors que les propriétaires s'en mettaient plein des poches. À un moment donné, il y a différentes choses qui sont arrivées, qui ont fait en sorte qu'il y a eu des grèves, il y a eu des lock-outs, il y a eu une nouvelle ligue qui s'est créée, qui a fait compétition, puis qui a changé la donne pour les salaires. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, ben, si les joueurs ils gagnent 8 millions de dollars, c'est parce que la ligue, elle s'en fait de l'argent. Puis s'ils gagnaient moins, ben, c'est juste les propriétaires, ils s'en feraient plus.
Mm-hmm.
Ça, où on serait capable de se payer des billets pour le Centre Bell, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est ça, en ce moment, le hockey féminin, ça commence. Et il y a un engouement en ce moment qui n'est pas comparable du tout à ce qu'il y avait avant. Je sens qu'en ce moment, parce que ce sont les meilleures joueuses, ce qu'on n'avait pas nécessairement, qui sont réunies dans les mêmes 6 équipes.
On refait quasiment le mythe des 6 équipes. On repart avec...
C'est les 6 originales. C'est pas dans les mêmes villes, mais pas loin, tu sais. Là, on a décidé que les villes allaient être Montréal, Toronto, Ottawa, Boston, New York et le Minnesota. À noter que la ville de le Minnesota. Minnesota, c'est drôle parce que dans tous les sports professionnels, c'est la seule place où toutes les équipes sont représentées, c'est représentent l'État et non la ville.
OK.
Tu sais, mettons, au hockey, t'as l'Avalanche du Colorado au hockey masculin.
Ouais.
Colorado, c'est un État.
Ouais.
Mais au football, c'est les Broncos de Denver.
Ouais. Tout à fait.
Mais Minnesota, dans les 4 sports, les 5 sports majeurs masculins en Amérique du Nord, c'est l'équipe du Minnesota. C'est le Wild du Minnesota. C'est les Twins du Minnesota parce que les deux plus grosses villes sont de taille presque égale, sont côte à côte.
OK.
Fait que tant qu'à ça, tu sais, si tu t'identifies comme étant juste l'équipe de Saint-Paul ou de Minneapolis, tu risques d'aliéner l'autre bord que c'est le même marché, finalement.
Mm-hmm. Ah, mais c'est vrai. Puis, tu sais, dans le fond, j'imagine que le marché n'est pas assez gros pour avoir deux équipes. Tu sais, c'est pas comme étant un New York, justement, ben, où il y a ça, deux équipes
à côté,
de hockey.
Ils sont à côté. Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas, t'sais, imagine si Gatineau était comme deux, trois fois plus gros.
Ouais.
Tu sais, c'est l'autre bord de la rivière d'Ottawa. Tu sais, c'est le même marché. Les Sénateurs d'Ottawa, il y a bien du monde de Gatineau qui vont les voir, tu sais.
Effectivement.
Fait que là, ils disent ça. D'ailleurs, les Twins au baseball, ils s'appellent de même parce que ce sont des villes jumelles, sache-le. Fait que là, on a racheté donc six équipes. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions, qui veulent savoir plein de choses, mais il y a tellement de trucs à gérer en ce moment. Parce que là, c'était comme de savoir comment on gère la convention collective, ça va être quoi le salaire, ça va être quoi le fonctionnement, combien d'équipes combien de joueuses par équipe, combien de contrats, comment ça fonctionne les contrats, s'il y a des blessures, comment on gère ça, comment est-ce qu'on distribue les joueuses. Mm-hmm. Faut faire un repêchage, mais là, on a décidé qu'on faisait ci, puis telle affaire, comment ça fonctionne les agents libres, le calendrier, là, faut trouver des commanditaires, il faut trouver des arénas, où est-ce qu'on veut jouer, c'est beau, on met une équipe à Montréal, mais elle joue où, tu sais?
Et elle joue, cette équipe-là?
Ben, je vais y arriver.
Ah, désolé.
Voilà, j'essaie de placer les pions en ordre chronologique en tentant de me perdre le moins possible, mais je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas.
Je te laisse aller.
Voilà. Ce qui fait en sorte qu'au travers de tout ça, il y a des choses que sa tête est un peu long avant qu'on y arrive. Par exemple, les chandails.
Ouais.
Tu sais, moi, je suis une grande geek, non seulement de hockey, mais surtout de chandails de hockey.
Mm-hmm. Tu nous parlais justement dans l'épisode sur Animal Crossing que tu as un plaisir à bâtir des chandails pour qu'ils soient dans le jeu, en fait.
C'est ça, il y a un truc dans Animal Crossing où tu peux créer des vêtements, puis moi, je recrée des chandails de hockey. J'avais recréé d'ailleurs le chandail de la Force de Montréal l'année passée, et j'ai aussi recréé des chandails olympiques avec le numéro 29 de Marie-Philippe Poulin, puis là, j'ai dessiné comme une médaille d'or autour pour représenter la médaille d'or à Vancouver en 2010. J'en ai fait un autre avec Sarah Nurse que j'aime énormément, qui est la joueuse aussi donc du Canada, mais là, qui joue pour Toronto, et qui était sur la pochette de NHL 2023 avec Trevor Zegras. Première fois qu'il y avait une fille sur la pochette d'un jeu NHL. Ça, c'était très cool, ça. C'est l'année passée, ça.
Mais elle jouait pas pour une équipe de la NHL.
Non, mais dans le jeu NHL, tu peux jouer avec plusieurs ligues, finalement.
Ah, OK, OK.
Fait que là, t'avais les équipes nationales dans le jeu. T'avais pas, les autres ligues, mais t'avais les équipes nationales. Fait qu'elle, tu pouvais jouer avec équipe Canada féminin. T'sais.
Je comprends, ouais.
Fait que ça se pouvait. Mais là, voilà, on arrive qu'on n'a pas de chandail, puis on n'a pas de nom d'équipe, on n'a pas de logo, puis ça a fâché beaucoup de gens, alors qu'on est en train de gérer des affaires bien plus importantes, parce que tant qu'à moi, c'est plus important qu'on ait...
Les conditions de travail, ouais.
Des conditions de travail, qu'on ait un aréna, qu'on ait des règlements, qu'on ait un chandail. Mais c'est vrai que ça aurait été le fun qu'on les ait, les chandails. Ce qui est d'autant plus difficile en ce moment, c'est que, à part Ottawa, les cinq autres villes qui ont des équipes en ce moment, donc Montréal, Toronto, Boston, le marché du coin de Boston, parce que je pense qu'il était représenté officiellement comme étant le Connecticut, mais c'est le même coin, New York et le Minnesota, il y avait une équipe dans la Premier Hockey Federation, puis comme on a racheté la ligue, ben ces noms-là, ces logos-là, ce look-là appartient, on pourrait les réutiliser, mais on a décidé qu'on voulait pas. Puis je sais pas trop pourquoi, parce que moi je trouve que la Force de Montréal, c'était hot en tabarouette comme nom. Il y avait un méchant beau logo en plus.
Mm-hmm.
Mais là on a décidé que ben non. Fait que là voilà, en ce moment les joueuses ont des chandails où il est écrit en diagonale le nom de la ville ou de l'État. Fait que, par exemple, Montréal, ben, il est écrit Montréal en diagonale.
Ouais.
Montréal écrit avec un accent sur le E. D'ailleurs, je l'ai mentionné, quand même. Francophone, on a l'accent sur le E. Fait que c'est ça. Fait que là, les équipes, c'est comme si l'équipe Montréal, c'est l'équipe Ottawa, c'est l'équipe Toronto. On dit qu'on devrait avoir des noms, voire des logos d'ici la fin de la saison qui se termine, je pense que c'est fin avril, début mai. Mais on les a pas encore. Puis peut-être qu'une des raisons pourquoi, c'est parce que il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des marques qui avaient été déposées aux États-Unis pour des noms d'équipes par la Ligue elle-même. Et les noms ont... Ouais.
Ils passent pas.
Tu sais, une Ligue de hockey féminin, ça fait pas l'unanimité parce qu'il y a toujours des gars qui sont des gros niaiseux qui font des affaires, tu sais. Puis il y a d'autres gens qui sont comme, mais non, mais taille, ça va être vraiment cool. Mais autant les gars niaiseux que les gens qui ont vraiment envie que la Ligue fonctionne étaient unanimes sur le fait que c'était les pires noms possibles. Par exemple, l'équipe de Montréal, on voulait l'appeler l'écho de Montréal.
Mm-hmm.
Soit, je sais pas, j'hésite en deux affaires. Soit c'est parce que C'est un hommage au Toyota de 2003.
Ou soit c'est pour dire que l'aréna va être vide.
Ou soit c'est pour dire que l'aréna va être vide, puis il va y avoir de l'écho, tu sais.
Ouais, ouais.
Alors qu'il y a tellement de gens qui disaient que tout allait être vide. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis sinon, il y a pas... Tu sais, c'est cool, écho, parce que, tu sais, vu qu'il y a un accent aigu, t'affirmes ta francophonie tout en ayant un nom qui fonctionne bien en anglais, tu sais.
Ouais.
Parce que c'est sûr que pour une équipe de Montréal, c'est quelque chose auquel on va penser. Il faut que le nom fonctionne en français puis en anglais, tu sais. On peut pas s'appeler comme avant les Stars de Montréal. Ça marche pas, tu sais.
Mais la Force, ça fonctionnait.
Mais la Force, ça fonctionnait. Ben oui, c'est The Montreal Force. Ça marchait full bien.
Ben oui.
Montreal Echo, ça marche. D'ailleurs, vous noterez que toutes les équipes, tous les noms d'équipes étaient des noms au singulier.
OK.
Ce qui est un truc qu'on voit dans le basketball féminin aussi beaucoup. La WNBA, c'est beaucoup des équipes. The Liberty, par exemple, tu sais, qui ont des noms singuliers. Au hockey, c'est plus rare, mais il y en a. Tu sais, mettons le Wild du Minnesota, l'Avalanche du Colorado. Mais là, ils ont décidé qu'il y avait tous des noms singuliers. Mais voilà, l'écho de Montréal, sinon, il n'y a aucun... Pourquoi c'est l'écho de Montréal? Tu sais, pourquoi Montréal, il y a de l'écho?
C'est que c'est même pas représentatif. Tu sais, si je pense à Montréal, je pense pas à ça. T'sais, c'est pas comme on n'est pas dans les Alpes. Là, t'sais, il y a quelque chose de comme... Ça veut rien dire. C'est beau, mais ça veut rien dire. T'sais.
Ça veut rien dire. Est-ce que c'est parce qu'il y a un CH dans le milieu puis c'est un clin d'œil aux Canadiens?
Ah, pas faux.
Je sais pas, mais en même temps, je suis quand même down que l'équipe s'appelle pas les Canadiennes de Montréal comme certains l'ont exprimé, parce que soyez votre propre affaire, tu sais.
Ben de ça, puis tu sais, même si tu dis si c'est pour faire un rappel au CH, parce que c'est comme oui, mais mettons, ça aurait été, je sais pas moi, le CH et ce qui est porteur, mettons, du hockey ou qui a été porteur historiquement de notre amour du hockey à Montréal. Et aussi, ben, pour faire référence, c'était un clin d'œil à l'ancienne équipe des Canadiennes, que je sais pas si c'était aussi un surnom qu'on pouvait leur accorder. Mais c'est sûr que moi, je trouve qu'il y a un petit côté, je le disais quand on se parlait hier, mais je trouve que ça fait il y a un petit côté Côte d'Adam là-dedans. Là, tu sais, où est-ce que c'est oui. Comme ça naît de quelque chose d'autre. Tu sais, puis c'est effectivement, d'être sa propre affaire.
C'est ça. Soyez votre propre affaire. Les autres noms, t'avais le Wicked de Boston.
Mm-hmm.
T'avais le New York Sound. Puis je sais que Sound, c'est un terme qui est utilisé en anglais pour un type de cours d'eau. Je pourrais pas vous dire exactement quel genre, mais il y a un truc qui s'appelle le New York Sound, qui est comme sur le bord de l'île de New York.
Donc ça, au moins, une signification.
C'est une signification. Minnesota, c'est assez niaiseux. C'est le Minnesota supérieur. À cause du lac supérieur. Mais le Superior du Minnesota, c'est juste pas bon comme nom. T'sais.
Non, c'est ça.
Ottawa, c'était moins pire parce qu'il y avait déjà une équipe qui s'appelait à l'époque l'Alerte d'Ottawa.
Uh-huh.
Puis je pense que l'idée, c'est un peu comme les Sénateurs qui aient la version officiellement comme The Alert puis Alerte avec un E à la fin. T'sais.
Uh-huh.
C'est les Sénateurs d'Ottawa, officiellement. En français, ça s'écrit Sénateur E-U-R-S. Puis en anglais, c'est O-R-S.
Uh-huh.
Mais le pire... Le pire, c'était Toronto.
Oh, ok. Mais je sais que ça avait fait écho, justement, mais c'était quoi déjà? Rappelle-moi.
La torche! La torche de Toronto. À soir, on joue contre les torches.
Non, la torche.
La torche.
Ce qui est au singulier.
Ouais, mais tu sais, c'est comme le Canadien de Montréal, dont le nom officiel, c'est le club de hockey canadien, d'ailleurs. Mais tu sais, les joueurs, c'est les Canadiens, pareil, tu sais.
Ouais.
Fait qu'à soir, on joue contre les torches. T'as pas envie que ça soit... Ça peut pas... Y a pas personne sur le comité qui parlait français ou qui venait du Québec ou qui comprenait, tu sais. Tu peux pas t'appeler la torche à Toronto, là.
Fait que, mais il y a quand même quelque chose, tu sais... Il y a quand même quelque chose dans ce sens-là aussi de, tu sais... d'étude de marché, là, où est-ce que justement c'est comme il veut, tu veux pas le faire à la va-vite, là, comme tu dis, tu veux quand même, l'engouement est là, puis on parlait, en fait, tu juste avant qu'on rentre en onde, tu m'as dit hey, les matchs sont live sur YouTube, j'imagine oui. Que c'est quelque chose qui va arriver dans la discussion. Je voulais juste te dire que tu m'as dit c'est en ce moment, donc je l'ai syntonisé, mm-hmm. Donc sur les internets,
oui.
Et c'est sur YouTube, donc pour l'instant je vous annonce que nous sommes en deuxième période à 7 minutes 50 8 secondes et que le Montréal a l'avance 2-1 contre New York. Et il y a 11 000 personnes qui regardent au moment où est-ce qu'on est en train de se parler.
Oui,
et ça ne fait que monter. Parce que tu vois, quand j'ai syntonisé, il y avait 2 000 personnes de moins. Donc ça continue à monter.
Oui, ben je pense aussi que c'était le début de la période. Fait peut-être que les gens ils ont pris une pause, sont venus, je sais pas.
Ça a bien du sens.
Mais quand même, t'écris juste PWHL quand il y a un match sur YouTube. Puis tu peux trouver le match super facilement. Mm-hmm. Puis ça, c'est le bout qui est le fun. Parce qu'il y a eu un moment, c'est ça, en décembre, novembre, où On n'avait pas trop de détails sur c'est quoi les règlements. On n'a pas les noms des équipes, le salaire qu'ils vont jouer, ils n'auront pas de chandail. J'ai comme... Je pensais que j'ai perdu espoir, mais j'en avais moins. Et là, depuis que la saison a commencé le 1er janvier...
Qu'est-ce que tu veux dire par perte d'espoir? T'avais-tu comme une crainte que ça allait faire un pétard mouillé?
J'avais peur que ça fasse un pétard mouillé.
Ok, je comprends.
Et là, finalement, la saison a commencé officiellement le 1er janvier. Et c'est un immense succès depuis. Le premier match à Montréal, je voulais m'acheter des billets, mais j'avais une amie. Puis là, c'est comme, ah, tu sais, je te réponds juste pour être sûr, ça se peut que je ne sois pas encore à Montréal quand ça va être le match, tu sais. Match qui avait lieu samedi, ben les billets, ils ont sold out en comme une heure.
Wow!
Puis ils ont fini par comme libérer, je pense que c'est comme l'espèce d'espace en haut, que c'est pas des sièges, mais c'était comme, on va faire entrer plus de monde, acheter des billets, tu sais, trouver une façon de faire entrer plus de gens pareil. L'équipe joue dans deux arénas différentes, en fait, cette saison. Le premier match avait lieu à l'Auditorium de Verdun,
mm-hmm.
là où j'avais vu la Force de Montréal jouer l'année passée, parce que l'année passée, la Force de Montréal jouait dans des villes différentes toutes les fins de semaine, genre.
Okay. Fait
qu'ils ont joué comme deux matchs à Montréal, deux matchs à Québec, deux matchs à genre Rivière-du-Loup, ils sont promenés un peu.
C'était-tu comme des, comment qu'on appelle ça, des matchs de ça a un nom, là, mettons, au baseball, ils font ça, là, tu sais, des... Tu sais, quand tu veux faire un match pour que comme faire connaître un peu à des marchés étrangers, là...
C'était un peu ça, c'était pas... T'sais, l'idée, c'est qu'évidemment, on voulait faire connaître le hockey féminin à travers le Québec, mais faire connaître la Force de Montréal à travers le Québec aussi. L'idée, c'est qu'après ça, on s'installe à l'Auditorium de Verdun parce que c'est là aussi où s'entraînent habituellement les équipes de hockey féminine, entre autres. T'sais, c'est vraiment comme un centre d'entraînement qui est spécifique au hockey féminin.
Okay.
Donc, on joue des matchs là-bas. L'Auditorium de Verdun, c'est 4000 places environ. Et là, ce soir... On joue à la Place Belle.
Ben oui, on voit le logo du Rocket. Hein, fait que...
Exactement, ça, c'est 10 000 places. Puis là, si je regarde rapidement, c'est sûr que là, on est un mardi soir. Tu sais, c'est pas tous les gradins qui sont remplis, mais quand même, il y a des gens qui sont là. Puis les billets, d'ailleurs, sachez-le aussi, c'est super important, c'est entre 20 et 25 piastres, à peu près.
C'est rien, là.
C'est rien. Mettons, les billets à la Place Belle, si t'es vraiment sur le bord de la glace, sont plus chers, sont comme 50. Mais pour avoir été à la Place Belle pour voir un match du Rocket il y a quelques mois, puis j'avais le siège de plus en haut...
C'était combien?
Je m'étais fait donner le billet. Okay. Mon amie Virginie B, elle faisait un show pendant l'entracte
à la
du match.
À la pas mi-temps, mais comme...
Entre la deuxième et la troisième, elle faisait un show, dans le fond, de comme 12 minutes, puis elle avait plein de billets à donner. Fait que là, elle m'a évité naturellement, parce que je suis son amie qui aime le plus le hockey ou à peu près, tu sais.
Ah ben ouais.
Voilà, j'avais mon chandail de Yaroslav Halak du Canadien cette fois-là. Mais c'est ça, mais comme tu vois super bien, tu sais. Si mettons au Centre Bell, quand t'es tout en haut, c'est difficile, mais c'est parce qu'il y a 20 000 places. La Place Bell, t'es à 10 000. Mais c'est hot en maudit voir un match là-bas.
Puis en plus, ça circule beaucoup. Puis tu vois, ça fait deux fois que je vais à la Place Bell pour voir la lutte de la WWE. Mm-hmm. Et on voit très, très bien. C'est vraiment un aréna super agréable.
Ça a été c'est très récent comme aréna. Ouais. Fait que il y a des choses avant qu'on faisait juste parce que c'était plus simple de faire ça comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on crée des arénas avec l'idée spécifiquement qu'on puisse voir bien de partout, s'assurer que tout soit bien. T'as des arénas maintenant qui sont faits spécifiquement pour certains sports aussi.
Mm-hmm.
Ça avait déjà été un problème. Je me souviens d'une équipe de hockey à un moment donné qui s'était ramassée à jouer dans un aréna qui avait été conçu pour le basketball. Puis ça faisait en sorte que pour le hockey, c'était vraiment pas bien fait parce que la patinoire est comme trop grosse par rapport au terrain de basket. Fait que t'avais des bouts que tu voyais pas, dépendamment d'où t'étais.
OK.
Mais là, la Place Belle, c'était faite pour le hockey. Puis aussi, ben, qu'est-ce que pour des spectacles autres aussi, ça peut être bien fait aussi. Mm-hmm. Mais voilà, c'est vraiment beau, la Place Belle, d'ailleurs, sachez-le. Mais voilà. Donc...
Souvent, lorsqu'on est à Montréal, ça coûte aussi le prix de retour pour reprendre la ligne orange, là. Mais sinon, c'est ça, tu sais, c'est pas si loin que ça.
C'est à côté du métro. C'est vraiment à côté.
Exactement. Là, c'est 2 minutes quand tu sors du métro. Là, donc, c'est super accessible. Au niveau du transport, c'est accessible. Au niveau de l'argent, c'est accessible. Puis, comme tu dis, c'est un mardi soir. Puis, du moins, la caméra, est-ce qu'ils ont fait exprès, comme à la lutte, mettons, de vendre les billets qui sont à l'autre côté de la caméra? Peut-être.
Ben, moi, j'ai écouté beaucoup de matchs, comme j'ai dit tout à l'heure, puis il y a quand même une grande différence entre les arénas puis entre non seulement la capacité, mais le nombre de gens qui viennent. Par exemple, Toronto, le seul aréna qu'ils ont trouvé a comme 2000 places. Fait que c'est sûr que ça, c'est rempli, c'est pas un problème, tu sais. Mais quand ils ont joué à Ottawa, par exemple, ils ont battu un record pour le plus de personnes qui allaient voir un match de hockey féminin professionnel. Ils l'ont rebattu par la suite quand ils ont joué au Minnesota parce que l'équipe du Minnesota joue au domicile du Wild.
OK.
Fait qu'il y avait comme, mon Dieu, je pense que c'était 13 000 personnes qui étaient là. Oui, oui.
Ça a pris stoche.
Tu sais, c'est un aréna qui a peut-être, je sais pas moi, 17 000, 18 000 personnes, mais tu sais, c'était vraiment cool. Mais l'équipe de New York, par exemple, c'est très difficile en ce moment. Mm-hmm. Ils ont joué un match dans l'aréna du club école. Même pas un aréna de Ligue nationale, un aréna de Ligue américaine, de la même ligue que la Place Belle. Puis tu le voyais comment il avait vraiment mis tout le monde du même bord.
Mm-hmm.
Puis dès que tu avais la caméra qui bougeait un peu, dès que tu voyais un angle de caméra, tu voyais qu'il y avait tout un côté où il n'y avait absolument personne. Puis de ce que j'en comprends, c'est que... En fait, eux autres, ils jouent dans deux arénas différents cette année. Aussi, l'équipe de New York, ils jouent dans cette aréna-là, mais je pense qu'ils jouent aussi au... je pense qu'ils jouent dans l'aréna des Islanders de New York aussi, carrément, l'aréna de la Ligue nationale, tu sais. Puis c'est complexe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arénas, de ce que j'en comprends, à part le Madison Square Garden, qui sont vraiment à New York, qui sont faites pour avoir des matchs hockey qui sont disputés là, professionnels, avec des gens qui regardent.
Mm-hmm.
Fait que le match, mettons, il avait lieu à Bridgeport, au Connecticut. Puis il y avait tellement personne, puis il y avait des gens qui disaient dans le chat, parce que j'ai écouté le match sur YouTube, puis il y avait des gens dans le clavardage qui expliquaient que il aurait fallu aimer y aller, mais c'est tellement pas accessible pour les gens de New York de se rendre là-bas. C'est un peu comme si l'équipe de Montréal jouait à comme Mont-Tremblant ou à Belleuil. C'est vraiment comme une place compliquée, là, que tu vas avoir infini de trafic pour te rendre là, puis infini de trafic pour revenir, puis c'est super complexe. Fait que New York, c'est un peu difficile en ce moment de gérer ça. L'autre match avait lieu, c'est ça, à l'aréna des Islanders, mais... tu sais, même les Islanders ont eu longtemps des problèmes là, avec des gens qui viennent voir les matchs, tu sais. Fait que c'est sûr que dans la Ligue féminine, il y a ce problème-là aussi qui est là. Fait que New York, c'est comme l'équipe qui va un peu moins bien. Si vous écoutez un match qui se passe à New York, ça va être plus difficile. Mais là, en ce moment, New York, ils jouent, mais New York, ils sont à Laval. Fait que là, ça va bien. Il y a des gens dans les gradins en ce moment. Fait que tout se passe bien. Il y a des nouveaux règlements qui sont super intéressants aussi dans cette Ligue. Parce que, au hockey féminin, pour des raisons un peu obscures, autrement que genre « Ah, des filles, c'est pas fait pour la violence », t'as pas le droit de faire des mises en échec au hockey féminin international, contrairement au hockey masculin. Ça avait déjà vu un match de hockey de gars, ça se rentre dedans.
Ouais, c'est ça.
C'est partie du jeu.
Lorsqu'on rentre la personne dans la bande, donc une
voilà.
mise en échec.
Tu peux rentrer la personne dans la bande, tu peux frapper quelqu'un qui a la rondelle. Tu sais, tant qu'il y a la rondelle, tu peux faire ça, mais au hockey féminin, tu peux
mais
pas faire
sûr,
ça.
Mais bien sûr, juste... Pour des, mettons, oui. des gens qui nous écoutent parce qu'ils s'intéressent à juste t'écouter parler avec passion, mais qui connaissent pas. Quand on dit frapper, c'est pas comme donner un coup de poing.
C'est pas
là,
un coup de poing, non, c'est
vraiment,
ça.
C'est plus pousser, là, dans le fond.
Habituellement, c'est, mettons, fait avec l'épaule, le bras baissé. Tu peux pas donner un coup de coude, ça, c'est une pénalité. Tu peux pas donner un coup de poing en face, c'est une pénalité. Mais tu sais, c'est du contact physique intentionnel. C'est vraiment de je me donne un peu un élan, puis je rentre dans l'autre gars avec mon épaule, je donne un bon coup d'épaule. Les gars, ils tombent par la rondelle, c'est super légal dans la majorité des cas.
Est-ce que c'est légal aux Olympiques?
Ouais.
OK. Au féminin?
Masculin.
Mais pas féminin?
Non.
OK.
Non, c'est ça. Si vous avez déjà vu du hockey féminin aux Olympiques, il y a ça qui est différent. Ce que ça fait, entre autres, c'est que ça donne plus d'espace aussi pour les filles pour jouer avec la rondelle, pour manier la rondelle. Ils ont plus d'espace pour faire des jeux. Fait qu'offensivement, le jeu est plus rapide un peu grâce à ça, parce que là, t'as plus des gens qui font juste te rentrer dedans. Faut que tu trouves d'autres façons de faire perdre la rondelle à l'adversaire. Mais là, de ce que j'en comprends, c'est que les joueuses, ça les fait comme chier.
De juste pas avoir le même droit, finalement.
De pas avoir le même droit. Puis tu sais, c'est qu'il y a quand même du contact qui se fait un peu, tu sais, comme dans n'importe quel sport, que t'as pas le droit de juste rentrer dans quelqu'un en défoncé. Tu sais, t'as du contact. T'sais, des fois, au basketball, ça se touche les joueurs un peu. Tu sais, au soccer, des fois, ça arrive que c'est un peu physique. Tu sais, il y avait ça au hockey féminin, mais souvent, ce qui était difficile aussi, c'est que d'une game à l'autre, il y a des arbitres qui étaient vraiment sévères sur qu'est-ce qui est une mise en échec, qu'est-ce qui l'est pas.
Mm-hmm.
Ça devient compliqué. Puis les joueurs, ils ont envie là, de se rentrer dedans. Fait que là, un des nouveaux règlements de cette ligue-là, c'est que les mises en échec sont légales. Les joueuses peuvent se rentrer dedans. Puis moi, j'ai vu des joueuses revoler, là. La fille, là, elle se fait rentrer dedans, elle revole 10 pieds plus loin ses fesses, tu sais. Il y a du gros contact physique en ce moment, puis c'est vraiment impressionnant, puis c'est spectaculaire. Puis en quelque part, tu sais, le sport professionnel, c'est essentiellement un spectacle. Ça aide le spectacle. Puis même, tu sais, j'ai vu des fois, par exemple, il y a un sifflet, puis là, je pense que c'est peut-être un peu ça qui se passe. Hey, mon Dieu, ils sont en train de se taper sa gueule, là.
Hey, oui, hey, wow, oui, ouais, c'est ouais. vrai. Au moment où on se parle, les arbitres sont tous là et séparent donc deux joueuses qui se parlaient dans le casse, là,
ben,
comme on dit.
Oui, ben c'est ça, les deux joueurs se rentraient dedans. Dans le fond, la gardienne de but fait l'arrêt, le jeu est arrêté. Puis ça, on voit ça beaucoup au hockey masculin. Là, après un jeu, là, maintenant, il y a quelqu'un qui est comme « Ah, t'as trop tapé sur la gardienne de but.
Mm-hmm. »
Mais là, c'est Laura Stacy qui fait un beau jeu, mon Dieu. C'est très bien de sa part, mais après ça, elle est fâchée, puis là, elle donne un coup de poing d'en face, là.
Donc,
une petite taloche sur le casque. Puis les joueuses, d'ailleurs, ils ont toutes des grilles aussi,
ouais.
comme au hockey universitaire. Comme dans pas mal tout le hockey qui n'est pas vraiment la Ligue nationale de hockey, en fait. Là, souvent, les joueurs qui sont au hockey mineur, entre autres, ils ont toujours des grilles.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, tu sais, ça se rentre dedans, ça se bouscule. il y a ce caractère-là qui ressort de ça. Puis je pense que les fans de hockey, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même opinion sur, par exemple, l'importance des bagarres au hockey. Mm-hmm. Mais je pense que tout le monde aime la robustesse au hockey, aime le fait que tu le sens que les deux équipes s'aiment pas. C'est pas mal plus le fun d'écouter une game quand tu le sais que les deux essayent. C'est de la même façon qu'une game Canadien-Boston, ça n'a pas la même saveur qu'un match entre les Canadiens de Montréal puis les Ducks d'Anaheim, qu'il n'y a pas de rivalité, tu sais.
Ouais, je comprends. Mais tu vois, c'est un peu le côté lutte, là, justement. Oui. Je veux pas trop faire de parallèle, mais il y a quelque chose un peu dans... Parce que c'est que le match, c'est la représentation... Comme tu disais, il y a le côté spectacle qui est le match, c'est la prouesse athlétique.
Oui.
Mais... Quand tu rajoutes cette couche-là de profondeur, c'est l'histoire. C'est un récit, en fait, qui est raconté lorsqu'il y a cette rivalité-là. Puis, tu as raison, il y a quelque chose de. Moi, j'ai juste trouvé ça. Il y a des choses que je trouve niaiseux avec la bataille au hockey. Entre autres, l'espèce de loi du talion, à un moment donné, je ne me rappelle plus. Il y a un match que j'ai écouté il y a peut-être 3 ans où est-ce qu'il y avait justement eu un coup qui avait été... En fait, il y a eu une mise en échec très, très difficile. Je pense que la personne a fait exprès ou... Je me rappelle plus exactement du contexte. Il y a eu cette fameuse mise en échec, là, je pense, là, pendant les séries là, du Canadien. Là.
Oui, OK, je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. C'était un match Canadien-Toronto.
Ouais.
Et John Tavares, capitaine des Maple Leafs, avait mangé un genou d'en face. Mais c'était accidentel. Le gars, il est tombé, l'autre, il s'est sauté par-dessus, coup de tête, tu sais. Le gars, il a une commotion cérébrale. Puis plus tard, c'était Nick Foligno, ancien capitaine de mon équipe préférée, les Blue Jackets de Columbus, qui était avec Toronto à l'époque, qui avait décidé de jeter les gants contre le joueur qui avait donné le coup de genou qui était accidentel. C'est ça qui est niaiseux. Parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a un joueur, il fait une grosse mise en échec sur un joueur vedette. Ben après ça, faut que tu répondes de tes actes. Récemment, il y a Connor Bedard. C'est comme le nouveau Sidney Crosby, nouveau Connor McDavid. Recrue, 18 ans, joue pour une équipe absolument poche à chier, qui est les Blackhawks de Chicago. Il y a rien d'autre dans cette équipe-là. Il se blesse. T'sais, grosse mise en échec, parce qu'à un moment donné, au hockey, faut que tu lèves la tête. Faut que tu regardes ce qui se passe. Puis quand tu regardes à terre, ben, tu deviens très vulnérable aux mises en échec. Mange une grosse mise en échec qui est légale, mais comme qui sonne Connor Bedard. D'ailleurs, là, il va rater plusieurs semaines d'activité à cause de ça. Ben évidemment, qui c'est qui part à sa rescousse? Ben c'est Nick Foligno, encore une fois, le même gars que l'autre fois à Toronto. Ben il a jeté les gants devant le joueur, parce que c'est un truc, si tu fais une grosse mise en échec à quelqu'un, t'es supposé, entre guillemets, répondre de tes actes.
Mais on dirait que je trouve ça niaiseux.
Moi, ce qui me gosse, c'est quand un jeu qui est complètement légal, c'est une bonne mise en échec propre.
Ouais.
Dans les règles de l'art, tout est beau. Mais là, le jeu s'arrête parce qu'il y a un gars qui est fâché puis il drop ses gants puis là, t'arrêtes le jeu pour ça.
Mm-hmm.
Moi, ça me gosse un peu.
C'est ça.
Je trouve ça un peu inutile. T'sais. Mais j'avoue que...
Mais c'est que si...
Un bon match de série où c'est parce qu'ils saillissent pour de vrai puis c'est vraiment juste... On s'aime pas, là. Moi, ça me fait du bien. Là. L'autre jour, il y avait un match, c'était Ottawa, les Sénateurs d'Ottawa contre les Panthers à Floride.
OK.
Duel entre les frères Tkachuk. Okay. Mais il y en avait un des deux qui était au banc des pénalités. Puis là, ça a fini que tout le monde s'est rentré dedans, tout le monde se frappait, puis là, tous les joueurs, tout le monde avait un autre joueur, puis tout le monde se tapochait dessus. Là, l'arbitre, à un moment donné, il faut qu'il annonce des pénalités, tu sais, puis habituellement, il va dire, bon, numéro 28 de telle équipe, pénalité pour ça. Puis il a juste dit, tous les joueurs ont une pénalité pour ça. Parce qu'ils étaient tous... Vous avez
tous les joueurs sur la glace, là.
Ouais, tous les gars sur la glace. All the players on the ice. Pénalité pour... Je pense que c'est pour avoir cette battue ou quelque chose. Puis c'était vraiment niaiseux parce qu'après ça, tu voyais des images du banc, mettons, des Sénateurs d'Ottawa où il y avait comme 4 joueurs parce que tout le monde s'était fait sortir. Parce qu'à un moment donné, l'arbitre, puis c'est surtout, t'es en fin de match, mettons.
Ouais.
Tu vois que ça escalade, tu vois que ça exagère, puis t'es comme, j'ai pas envie que ça dégénère. J'ai pas envie d'avoir une situation où là, faut que je gère 12 000 personnes qui se battent, puis ça reprenne. Fait qu'à un moment donné, t'es juste comme, gars, on va expulser le monde.
Ouais.
On va juste rentrer chez vous, tu sais. Mais ça fait du bien des fois. Tu sais, une bonne bagarre de gardien de but qui traverse la patinoire au complet. C'est rare, mais quand ça arrive... La dernière fois, je pense, c'était le match entre les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary. Deux équipes très, très, très rivales parce que ce sont les deux équipes albertaines aussi.
Mm-hmm.
Puis ça s'est fini, c'est ça. En bagarre de gardien de but. Puis c'est drôle parce que souvent, les gardiens, tu sais, le temps que tu te rendes avec ton équipement de 200 livres... Des fois, tu sais, moi, j'ai déjà vu des bagarres de gardiens. Les gardiens de but, ils ont juste du fun. Ils se tapochent un peu et ils rient. Mais j'ai déjà vu aussi, dans le temps, avec Patrick Roy, entre autres, qui est un esti De cas.
De cas, j'ai beaucoup aimé ce...
C'est un cas, Patrick Roy, tu sais. Puis c'était dans le temps, mon Dieu, la rivalité entre l'Avalanche et les Red Wings des années 90. Puis deux fois, ils s'étaient battus contre le gardien de but des Red Wings. Puis c'était pas le même les deux fois, tu sais. Puis là, ça se vargeait, là.
Ouais.
Ça se vargeait dessus, ça avait aucun sens. Ça avait le commentateur qui était comme « Hey, droite de Patrick Roy! Droite de Patrick Roy! L'autre droite de Patrick Roy! » Ça avait aucun bon sens, tu sais. Ça, c'était pas du show, c'était comme « On saillit à ce point-là. »
Ouais.
On se déteste. Mais là, en ce moment, évidemment, c'est une nouvelle ligue. Hein, ouais. Ça fait deux semaines que c'est commencé. Les joueurs ne saisissent pas encore à ce point-là.
Mais si tu me permets, ils se connaissent beaucoup.
Ils se connaissent beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de joueuses. La majorité des... T'sais, une grande partie des joueuses font partie des équipes nationales canadiennes et américaines. Il y a quelques joueuses européennes aussi dans la ligue. Il y a une joueuse... Je me sais plus si ça vient du Japon ou de la Chine, mais il y a une joueuse asiatique, ce qui n'est pas le cas dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a aucun joueur qui est citoyen d'un pays asiatique qui joue dans la Ligue nationale de hockey.
C'est ça, c'est toutes des personnes qui ont immigré ou des personnes qui sont des deuxième génération, troisième génération.
Ouais, tu sais, comme Nick Suzuki, par exemple, le capitaine du Canadien, ben, c'est vrai que son grand-oncle, c'est M. David Suzuki.
Ah oui, mais je l'avais entendu, ça, oui.
Ben, c'est ça, il est comme, je pense qu'il est un quart, tu sais.
OK, grand-oncle.
Grand-oncle. Il y a déjà eu un gars, ça c'est déjà arrivé à un moment donné en 2004, mais comme... Il n'y en a pas. Dans ce cas-là, il y en a. Parce que le hockey féminin est quand même bien développé en Asie aussi. Mais la plupart sont justement des joueuses de l'équipe canadienne, par exemple, de l'équipe américaine. Puis là, ils sont fait disperser un petit peu. Ce qui fait que non seulement, par exemple, là, Montréal joue contre New York, c'est sûr qu'il y a des joueuses qui ont joué ensemble aux Olympiques des deux côtés. Mais c'est qu'il y a aussi des joueuses qui... Parce que la rivalité entre le Canada et les États-Unis sur la scène du hockey féminin est gigantesque. C'est essentiellement les deux grandes puissances.
Oui, tout à fait.
On se saillait sans maudit, puis là, ben, ils jouent dans la même équipe.
Ben, c'est vrai, ça. Ça doit créer quand même. Ben, est-ce qu'ils sont contents de se croiser dans une équipe adverse, justement? Ou...
Je pense qu'ils ont beaucoup de respect.
Oui.
Mais.
Moi, je m'excuse, mais
je sais pas, là.
Mais moi, j'ai vu le reportage qui racontait l'histoire d'amour des deux capitaines des équipes féminines du Canada et des États-Unis qui avaient un fling. Ils étaient déjà dans la. Je pense qu'ils n'étaient pas officiellement ensemble, ou à un moment donné, ils étaient ensemble, mais ils l'ont dit à personne, puis ils se sont affichés ensemble à la fin de leur carrière, ou quelque chose comme ça.
Ah ouais?
Oui, puis ils ont eu deux enfants ensemble, là, je pense. Là.
Ouh.
Mais c'était récemment, là. C'était comme peut-être il y a 5-6 ans. Là. Je ne me rappelle plus de qui je... Je vais essayer de te trouver ça. Attends.
Parfait. Parce que là, en ce moment, la capitaine de l'équipe canadienne, habituellement, c'est Marie-Philippe Poulin. Marie-Philippe Poulin qui joue pour l'équipe de Montréal. C'est fille de chez nous, évidemment, petite fille la bosse. C'est la meilleure joueuse. C'est la meilleure joueuse au hockey féminin. Puis, ben, sa conjointe, c'est Laura Stacy, la fille tantôt qui foutait la marde devant le filet.
Ah, ben oui!
Et elles sont conjointes, elles jouent dans la même équipe, elles jouent souvent sur le même trio, tu sais.
Ben, hey, imagine en plus si, comme, mettons, l'autre se fait varloper. Ça doit être émotivement.
Oui, je veux dire.
Et c'est quelque chose qu'on peut pas voir au hockey masculin parce qu'apparemment, il y a des gens qui disent ouais, mais ça existe pas des gays au hockey.
En ce moment, dans la Ligue nationale de hockey, sur les 32 équipes, il y a 32 équipes, il y a 20 joueurs en uniforme à chaque match. Il y a peut-être une trentaine à peu près de joueurs différents dans l'année qui vont jouer pour chaque équipe, en incluant les joueurs des ligues mineures. Il n'y a aucun joueur, ouvertement, quoi que ce soit, qui a disputé un match dans la Ligue nationale de hockey. La Ligue nationale de hockey a été fondée en 1917. C'est jamais arrivé.
En 1917?
Ouais.
Ah, le centenaire, c'est en 2017?
Le centenaire de la Ligue nationale. Le Canadien de Montréal existait avant.
Ah, excuse-moi.
Il n'y a pas de stress. Mais... À base, il était dans une autre ligue, le Canadien de Montréal. Puis là, je vais vous geeker ça parce que cette histoire-là, je la trouve très drôle. Il y avait une ligue qui s'appelait la National Hockey Association.
OK.
Où tu avais comme deux équipes de Montréal, une équipe de Québec, une équipe d'Ottawa, puis une équipe à Toronto. Mais le problème, c'est que tout le monde haïssait le propriétaire de Toronto. Il gossait, là. On l'aimait pas. Fait que là, les propriétaires des autres équipes se sont dit, ben là, on va essayer de le kicker out de la ligue. Mais selon la constitution de cette ligue-là, c'était pas possible. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de tout se retirer de la National Hockey Association puis créer une autre ligue. Juste pour faire chier le gars parce qu'il l'aimait pas. Pis c'est de même que la Ligue nationale de hockey a été fondée en 1917. C'était juste parce qu'ils voulaient exclure un gars.
Puis aujourd'hui, il n'y a jamais eu un seul gay là-dedans, par exemple.
Mais il n'y a jamais eu un seul gay là-dedans. Il y a un joueur qui appartient aux Prédateurs de Nashville.
Oui.
Il appartient à eux autres, il a été repêché, il est ouvertement gay, mais il n'a jamais joué encore pour les Prédateurs. Il joue dans les ligues mineures. Mm-hmm. Peut-être un jour se développera-t-il jusqu'à devenir un joueur de la Ligue nationale, mais pour l'instant, c'est toujours pas arrivé. On rappelle aussi que pendant longtemps, il y avait des soirées spéciales où les équipes mettaient des chandails pendant la période d'échauffement en hommage à ces communautés-là. D'ailleurs, hier, c'était le match thématique fierté pour le Canadien de Montréal.
Ah, parce qu'ils l'avaient enlevé, ils l'ont ramené.
Ben, ce qui s'est passé, l'année dernière, il y a des joueurs, des dudes, là, qui ont décidé que ça ne leur tentait pas de mettre le chandail arc-en-ciel parce qu'ils n'aiment pas ça.
Mais il y avait une histoire, il y avait certaines personnes qui se défendaient en disant que c'était une question religieuse, mais il y avait comme une ambiguïté sur le fait, est-ce que c'est la pression du fait que c'est des personnes qui sont nées en Russie, puis est-ce qu'ils ont une pression de faire de la...
Voilà, le premier joueur qui avait décidé, c'était Ivan Provorov, qui vient de Russie. Évidemment, en Russie, c'est extrêmement complexe, le droit LGBT. Mm-hmm. En fait, c'est pas complexe du tout, il n'existe pas.
Il n'existe plus, du moins.
C'est même illégal,
ouais,
tu sais, de faire de la propagande gay ou ces choses-là. Mais après ça, il y a des joueurs qui ne sont pas russes qui ont commencé à emboîter le pas. Entre autres, il y avait Eric Staal, anciennement joueur vedette des Rikings, là, qui est rendu avec les Panthers, qui avait dit « Moi, le chandail, je le mettrai pas, puis je l'ai jamais mis. J'ai jamais mis ça, ce chandail-là, c'est pas du nouveau que je le mette pas. » Puis là, il y a des gens qui ont dit « Oui, mais en 2021, tu jouais à Montréal pour le Canadien, puis tu l'as mis, le chandail. Non, 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 jamais fait ça. » Fait que oui, mais on a des images. Gars, mon gars, t'avais un chandail, il y a une arc-en-ciel dans le logo du Canadien. Genre, c'est pas grave, là.
Ouais.
C'est correct. Fait que là, parce qu'il y a eu une poignée de joueurs, là, ça se compte ses doigts d'une main ça a comme un peu foutu la merde, ça a un peu... Mais la Ligue nationale a décidé, à partir de maintenant, il n'y a plus de chandails spéciaux. Il n'y en a plus.
Plus aucun.
Plus ça. Aucun. Il n'y a plus de chandails spéciaux pour la lutte contre le cancer, il n'y en a plus. Pour les vétérans de guerre, il n'y en a plus. Pour la Saint-Patrick, il n'y en a plus. On fait une soirée spéciale Star Wars, il n'y a pas de chandails spéciaux Star Wars, tu sais.
On s'entend que c'est les chandails, ils les portent pendant l'échauffement.
Oui, ils portent pendant l'échauffement, puis après ça, ils les mettent aux enchères.
Mm-hmm.
Et ça permet de ramasser de belles cagnottes.
Mm-hmm.
Parce que là, tu dis, hey, chandail de Nick Suzuki, moi, j'aimerais ça lâcher, puis je sais que tout l'argent s'en va dans une fondation qui est pertinente.
Mm-hmm.
Ben, allons-y, tu sais. Mais là, parce qu'aussi, Nick Suzuki, vu qu'il l'a porté dans une période d'échauffement, le chandail, il vaut plus cher, tu sais. Mm-hmm. C'est vrai non seulement pour les chandails de la fierté, mais aussi pour le chandail de lutte contre le cancer. Puis le cancer, je veux dire, on a besoin de beaucoup d'argent, je pense, pour pouvoir défaire ça. Fait que, tu sais, il y a ce problème-là. Mais là, après ça, la Ligue nationale a décidé, au début de la saison, de dire que non seulement ça, c'était illégal, les équipes peuvent plus faire ça, mais on rend le tape arc-en-ciel illégal.
Effectivement.
T'as pas le droit d'avoir le tape arc-en-ciel. Jusqu'à ce qu'au début de la saison, il y a un joueur des Coyotes de l'Arizona, Travis Dermott, il a mis une petite affaire de tape arc-en-ciel sur son bâton. Puis là, la Ligue nationale est comme, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut vraiment faire une sortie, faire un tapage médiatique partout pour faire comme « On a suspendu le joueur pendant 41 matchs. » Genre, qu'est-ce que tu fais?
Ben ouais, c'est
fait
ça.
Qu'ils ont juste... Ils sont cachés.
Ils ont juste pas fait de statement, finalement.
Ben, ils ont dit que la Ligue allait enquêter.
OK.
C'était en octobre. Puis tu vois, hier, c'était le match, justement, le Canadien affrontait l'Avalanche du Colorado au Centre Bell. Puis, ben, pas mal tous les joueurs de ce que j'ai vu pendant la période d'échauffement avaient du rhubarbe arc-en-ciel sur leur bâton.
Ben, écoute donc. Mais c'est l'agenda woke, encore une fois, probablement. Mais, que je dis bien
oui,
sûr.
Alors
à la
que,
blague.
Alors que dans la ligue féminine en ce moment, ben, ça se gouine à gauche, à droite, là.
Et j'ai retrouvé, donc, oui. Justement.
Yes.
C'est, en fait, la capitaine de l'équipe canadienne de hockey, Gillian Haps. Qui s'est mariée en 2018 avec Megan Dugan. Je le prononce sûrement super mal. Dugan. Mais c'est Megan, ça, c'est sûr. D-U-G-G-A-N. Dugan. Donc, Megan Dugan. ça se dit super bien. Et qui se sont mariés en septembre 2018.
Ah.
Mais si j'ai bien compris, c'était à la fin de leur carrière. Là. Donc, ils n'ont pas Ils se sont rencontrés. En fait, ils se sont affrontés dans 5 des 6 finales olympiennes depuis 98.
98, qui est l'année où ça a commencé, d'ailleurs, le hockey féminin aux Olympiques.
Et voilà. Et ils étaient jeunes quand ça a commencé parce qu'ils se sont mariés, tu vois. Ah non, c'est ça. Ils ont gagné. Non, il y avait l'âge. Ils ont arrêté leur carrière à 34 et 31. C'est des chiffres qui ont du sens, mettons, si on parle de 98. et 2018, donc 20 ans. Il aurait commencé à 18, ça, pas, non, 14. Ça se peut-tu être aux Olympiques à 14 ans pour le hockey? Non, ça devait être l'époque où ils ont gagné la première médaille, ces chiffres-là. Je lis en diagonale, mais bref. Les photos d'un mariage sont super cute. Vous irez checker ça. Donc,
oui, parce que mon Dieu, il y a des joueurs, puis c'est pas un sujet sur lequel je vais m'attarder parce que je trouve ça tellement important qu'on parle de sport féminin, de pas parler de ces choses-là, mais il y a des joueuses qui sont tellement magnifiques, là.
Non, mais comme tu dis, c'est pas pour les objectiver, mais c'est aussi pour dire, tu sais, de toute façon, c'est aussi pour dire que, dans le fond, on a l'idée, mettons, tu sais, c'est un peu comme, comment je pourrais dire, que peu importe c'est quoi, tu sais, de se dire, pour moi, il y a quelque chose de complètement ridicule de dire, ah, il y a aucune personne queer, puis que, on parle beaucoup de l'homosexualité, parce que c'est, je pense que c'est ce qui a été parlé beaucoup, même dans le milieu médiatique, c'est l'homosexualité. Mais la queerness en général, je veux dire, statistiquement, la probabilité qu'aucune personne queer qui a passé à travers la Ligue nationale de hockey est assez... serait phénoménal, là. Ce serait vraiment comme contre beaucoup de odds, mais voilà, où est-ce que je m'en allais avec ça? Mais
en ce moment, dans la Ligue nationale, je viens de vérifier, parce qu'il y a toujours 23 joueurs qui sont avec l'équipe. Tu sais, t'en as 3 qui jouent pas nécessairement, mais t'as 23 joueurs avec l'équipe, t'as 32 équipes. Ça fait 736 joueurs en ce moment qui sont avec une de leurs équipes de la Ligue nationale.
Là, comme tu dis, ça, on parle de plus de 100 ans.
Voilà, mais là, 736, après ça, il n'y a pas toujours 32 équipes, mais sur 736, c'est quoi le pourcentage dans la population de personnes gays? Juste de personnes trans, on parle de 0,5, tu sais. Fait que sur 736, ça veut dire qu'il y en aurait genre peut-être 3-4, tu sais.
Puis là, c'est mon petit côté intervenante qui dirait aussi ces chiffres-là, il faut faire attention parce que entre ces chiffres-là proviennent beaucoup d'études, mais d'autodivulgation.
Oui.
Et l'autodivulgation n'est pas du tout quelque chose d'acquise, là, justement. Et là, lorsqu'on sort, et tu vois, c'est lorsqu'on sort, mettons, des chiffres comme justement, je crois qu'un des chiffres qui était sorti, c'était il y a 4 ou 5 ans, là, où est-ce que les gens de la communauté de la génération Z étaient 25 % se nommaient ne pas faire partie de la communauté cisgenre ou hétéro. Donc, il y avait quelque chose de comme... Là, il y a des gens qui ont dit « Ah, oh, c'est l'agenda woke ». C'est comme « Mais c'est peut-être aussi qu'il y a 20... » Ça se peut qu'il y ait une personne sur 4 qui ne se représente pas dans ce modèle très, 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 très précis. Mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même cette idée-là aussi, mettons, chez le hockey féminin, où est-ce que, bon, ben c'est une affaire de lesbienne, tu sais. Oui. Alors que c'est comme... Mais tu m'as parlé beaucoup aussi de représentation, pas juste au niveau de l'orientation, mais tu m'as dit aussi qu'il y avait des femmes trans, dans le fond, qui ont pu évoluer dans le milieu du hockey.
Oui, à ma connaissance, il n'y en a pas dans la ligue actuelle. Mais il y en a eu dans les deux autres ligues dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans la Ligue canadienne, il y avait une joueuse, Jessica Platt, qui jouait pour le Fury de Toronto. Et elle, en fait, il y avait déjà un protocole en place dans la Ligue qui n'avait juste jamais été appliqué parce que ça n'était jamais arrivé, mais il y avait un protocole en place pour si jamais il y a des personnes trans.
Mm-hmm.
Puis dans son cas, dans le fond, le protocole demandait à ce que... C'est assez standard, justement, dans les sports qui acceptent les athlètes, les femmes trans. Il fallait simplement que son taux d'hormones soit dans un certain seuil, autant l'estrogène que la testostérone.
Mm-hmm.
Moi, je sais, par exemple, que mon taux d'hormones en tant que femme trans serait adéquat pour que je joue dans cette ligue-là. Les seuls problèmes que j'ai, c'est que la ligue n'existe plus de un, puis de deux, je sais pas patiner. J'ai pas les talents nécessaires, mais si je les avais, je pourrais jouer dans cette ligue-là. Puis non seulement ça, mais on lui a donné l'occasion aussi de elle-même annoncer à ses coéquipières qu'elle était trans, ce que je trouve extrêmement précieux aussi.
Donc, elle a été engagée, elle a pu évoluer sans faire de coming out.
Puis évidemment, peut-être parce que justement, tu sais, statistiquement, les personnes lesbiennes sont, dans toute la communauté LGB, les personnes les plus ouvertes, les plus empathiques envers les personnes trans, les personnes qui ont qui ont plus de chances d'être ouvertes à les personnes trans, de respecter ces personnes-là. Je pense que ça a pu aider aussi.
Mm-hmm.
Et à l'inverse, dans la Premier Hockey Federation, il y avait un joueur trans qui a fait son coming out en disant qu'effectivement, il n'était pas une fille. Puis je sais que dans toute la réflexion, quand on a changé le nom de la Ligue pour devenir la Premier Hockey Federation puis enlever le mot « femme », il y avait un petit peu apparemment de cette idée-là aussi d'être une Ligue qui est inclusive. Il y avait des règlements qui étaient super inclusifs. On ne parlait même pas d'hormones ou de quoi que ce soit. C'est comme tant que tu t'identifies comme ça depuis au moins un certain temps, ça va. Mais je sais qu'elle, au début, on lui avait demandé que... En fait, lui, il avait de ne pas prendre de testostérone, tu sais, de ne pas prendre des suppléments de testostérone comme ce que plusieurs hommes trans vont faire. De la même façon que moi, je prends de l'estrogène et des bloqueurs de testo. Ben lui, il était comme, je vais attendre la fin de ma carrière, puis quand ça va être fini, là, je vais commencer vraiment à faire...
ma transition médicale.
Ma transition médicale, voilà. Ce qui n'empêche pas que ma transition sociale se fait en ce moment, que je suis un gars.
Mm-hmm.
Mais voilà, il y avait de la place pour ces athlètes-là là-dedans. C'est très difficile, évidemment, les personnes trans dans le monde du sport, c'est un sujet qui a comme explosé dans les dernières années parce que, c'est quand tu as un gouvernement de droite puis que tu sais pas comment régler des dossiers comme l'inflation qui sont très complexes, c'est juste facile de dire, ben, on va juste chier ces personnes trans, puis parce que ça, c'est très simple. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui sont comme, ah, on va enfin réussir à empêcher les personnes trans de jouer au soccer, puis ils sont comme, oui, mais dans ton comté, est-ce que tu connais des joueurs et joueuses trans? Ben non, tu sais. Mm. Ça mène aussi évidemment à tous les problèmes du genre une fille cis qui participe à un sport, mais là, il y a un parent dégradant qui dit « Hey, c'est un petit gars! » Puis là, c'est comme, ben, on va vérifier, tu sais, ben, c'était culotte, tu sais. Alors qu'on s'entend que si tu veux protéger les filles qui font du sport, mm-hmm. le danger, ce ne sont pas les personnes trans. Si tu regardes un peu l'actualité, tu vois que le danger, ce sont les entraîneurs cisgenres. Mm-hmm. Parce que voilà, je vais pas continuer cette phrase-là parce que je vais pas mettre de trigger warning, mais vous savez où ça s'en va.
Oui, tout à fait. L'actualité, des nouvelles qu'on nommera pas, mais des choses de l'actualité de cette semaine qui sont sorties, qui sont absolument épouvantables, c'est effectivement, j'ai pas de punch à ça parce que je m'attendais pas à ce qu'on aille là, mais pour revenir à la, il nous reste très peu de minutes. Oui. On a beaucoup parlé justement de l'historique, l'origine, de mm-hmm. qu'est-ce qui a précédé cette ligue-là. Tu as parlé que la saison a commencé il n'y a pas très longtemps. On parle déjà d'un très grand engouement. On voit quand même que c'est pas tombé. Peut-être que c'est un bon move marketing de commencer si tôt. Qu'est-ce qu'on peut espérer peut-être pour les prochains mois, la prochaine année? Et aussi, comment trouves-tu le fait que ça soit disponible sur YouTube?
C'est disponible sur YouTube, mais je trouve ça super important de mentionner aussi que les matchs sont diffusés sur plusieurs chaînes professionnelles.
Des chaînes spécialisées.
Oui, voilà. Des CBC présentent des matchs. Moi, j'ai pu écouter le match. J'ai CBC chez nous. J'ai mm-hmm. la télé qui a des postes faciles. Là. J'ai CBC chez nous. Des matchs sont diffusés sur Radio-Canada en ligne. RDS diffuse des matchs. TSN diffuse des matchs. Sportsnet diffuse des matchs. Et ça veut aussi dire que ces postes-là, quand tu vas sur le rds.ca, quand tu vas prendre tes nouvelles de sport sur ces sites-là, on parle abondamment de cette ligue-là et ça, c'est nouveau pour du hockey féminin. J'ai jamais vu, à part pour du tennis, autant de couverture médiatique pour un sport féminin mm-hmm. sur des places comme RDS, sur des places comme, tu sais, mettons une place comme Radio-Canada, ça va être beaucoup quand ça va être peut-être une Coupe du Monde ou les Olympiques, mais ça, on en parle très peu des athlètes féminines. Puis là, je sens qu'il y a cet engouement-là en ce moment qui se fait. Puis ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent maintenant que la Ligue existe. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'il y avait une équipe professionnelle avant Montréal, mm-hmm. qui ne savaient pas qu'il y avait les Canadiens de Montréal, puis que tu peux aller voir des matchs, tu sais. En ce moment, il y a ça. Ce que je souhaite, évidemment, c'est qu'on ramène la Coupe à Montréal, peu importe quel nom elle aura, ça ferait du bien. Déjà, ça fait du bien d'avoir une équipe professionnelle de hockey à Montréal, bout de cul, qui est capable de jouer au hockey, puis qui gagne des matchs, puis en qui je peux avoir de l'espoir. Voilà. Mais on souhaite des beaux chandails. On souhaite des beaux logos parce que c'est tellement plus facile de faire du marketing quand tu as ces choses-là. On souhaite qu'il y ait des filles qui regardent ces matchs-là puis qui deviennent éventuellement des légendes dans cette ligue-là. Mm-hmm. On souhaite, et ça, j'ai adoré ça, voir à quel point il y avait des gars dans les gradins aussi pour le match à Verdun samedi dernier. Non seulement des hommes, il y en avait deux d'ailleurs qui avaient des chandails, des boys, mais qui avaient imprimé un logo qui s'est écrit « Les girls » puis qui l'avaient tapé dessus.
Ah, c'est tellement bon!
Puis de voir des petits gars aussi, il y avait des parents qui sont venus avec leurs petits gars aller voir le match, puis les petits gars, ils hurlaient, ils étaient dedans, ils étaient contents.
Mais c'est ça l'accessibilité du sport aussi.
Ben c'est ça. Si moi, comme fille, je peux compter pour le Canadien de Montréal puis compter pour mes petits Blue Jackets de Columbus, même si c'est des gars puis que je suis une fille, pourquoi l'inverse ne serait pas vrai, tu sais? Mm-hmm. Amenez vos gars aller voir ça. Amenez vos gars voir des filles fortes aussi. Je pense que c'est une très bonne chose. Puis j'espère que cette ligue-là va fonctionner pour de vrai parce qu'il y a eu beaucoup de départs et d'arrêts, de tentatives qui ont échoué. J'espère que ça va fonctionner pour de vrai. Et j'espère enfin que ça va faire grandir le sport, pas juste au Canada et aux États-Unis, mais à l'international, parce que mon Dieu que... À part le Canada et les États-Unis, c'est souvent difficile en ce moment pour les autres pays quand c'est les Olympiques. J'aimerais ça qu'il y ait comme plein de pays qui deviennent bons à un moment donné aussi.
Ben, merci tellement, Estelle, d'être venue défoncer l'année, donc d'être venue partir donc, le bal de 2024 des Amazones avec un sujet, ma foi, tellement fascinant. Puis, mais, hey, crime, je veux dire, c'est tellement accessible, c'est sur mon téléphone, je peux l'écouter partout. C'est sûr que je vais aller y jeter un coup d'œil. Puis 25 $ le billet, c'est tellement c'est accessible. Rien, on a besoin de l'accessibilité pour ce sport, de, pour ces sports-là. Mais c'est encore, Estelle, on doit partir. Donc, incessamment, parce que bientôt, le live se termine. Mais encore une fois, merci. Et on écoute le studio. On écoute, on te lit partout. On te suit sur les réseaux sociaux.
Instagram, estelle.euphorie.
Ben, merci beaucoup, Estelle. À très bientôt pour